Ben, en parcourant notre pile de sources du jour, on tombe sur un défi technique vraiment fascinant pour cette exploration.
Ouais, clair, c'est un gros morceau.
C'est une étude de cas sur un centre d'activité de plein air. Et c'est situé dans les Ardennes belges. Donc on s'attendrait à un petit site vitrine super basique, non?
Bah oui, la classique page d'accueil avec les tarifs, les horaires et basta.
Voilà. Sauf que là, on fait face à un monstre numérique de plus de 100 000 pages. Ça mélange de la location de kayak, des données hydrologiques en temps réel et même une encyclopédie naturelle.
C'est une empreinte numérique totalement titanesque pour une structure régionale.
Et du coup, notre mission pour ce deep dive, c'est de décortiquer comment l'ingénierie et la sémantique arrivent à structurer ce chaos absolu. Et surtout comment les moteurs de recherche s'y retrouvent sans faire exploser le système. Parce que le défi commence par une limitation matérielle, disons, assez comique.
Ah oui, la fameuse connexion.
C'est ça. D'un côté, le site génère 2 200 000 pages vues, mais de l'autre, le serveur tourne sur une petite connexion VDSL2 de seulement 30 mégabits par seconde.
30 mégabits pour ce trafic, c'est vraiment minuscule.
C'est comme essayer de vider un lac avec un tuyau d'arrosage. Donc, comment on évite le crash complet quand le robot de Google, le fameux Googlebot, débarque pour scanner ces 100 000 pages?
Bah, c'est le paradoxe principal de cette architecture, en fait. Si Googlebot frappe cette petite ligne avec des milliers de requêtes simultanées, le serveur va juste saturer et renvoyer une erreur 503.
Le fameux message de service indisponible.
Exactement. Et l'algorithme de Google déteste ça. Il prend ça pour un signal de détresse majeur et coupe immédiatement le budget de crawl. Enfin, il arrête d'explorer le site, quoi.
Ce qui est une catastrophe pour le référencement.
Totalement. Donc, pour survivre, la parade absolue, c'est de placer un CDN, donc un réseau de distribution de contenu comme CloudFront, juste devant le serveur en guise de bouclier.
D'accord, je vois bien l'idée du bouclier, mais comment ça empêche concrètement notre petit tuyau d'arrosage d'exploser sous la pression?
Alors, tout repose sur une directive hyper maligne qui s'appelle Stale While Revalidate.
Attends, en français, ça donne quoi ça?
Le mécanisme est assez simple. Quand Googlebot demande une page, le CDN lui sert instantanément une version qu'il a gardée en mémoire cache, même si elle est techniquement un peu périmée.
Ah ok, donc le robot est content parce qu'il voit un site ultra rapide.
C'est ça. Et pendant ce temps-là, le CDN va taper à la porte du serveur d'origine, mais discrètement, en arrière-plan, juste pour récupérer la mise à jour. Donc le trafic lourd est totalement absorbé par le CDN.
La tuyauterie est sauvée, c'est brillant. Par contre, ça soulève un autre problème. On a 100 000 pages, dont 49 circuits de randonnée, qui ont des dizaines de filtres de navigation.
Ouais, le tri par distance ou par difficulté, par exemple.
Voilà. Mais du coup, si Google commence à cliquer sur chaque combinaison de filtres possible, ça crée un labyrinthe infini qui va épuiser le robot, non?
Absolument. C'est ce qu'on appelle des spider traps, des pièges à robots. L'exploration tourne en boucle. Donc la solution employée ici, c'est de bloquer l'accès à ces filtres avec des expressions régulières dans le fichier robot.txt.
Oula, on fait une petite pause. Des expressions régulières. En français simple, ça fonctionne comment?
Imagine un vigile à l'entrée d'une discothèque. Plutôt que de lui donner une liste de 50 000 noms à bloquer, on lui donne une seule règle logique. Genre, refuse l'entrée à toute personne portant des baskets.
D'accord, donc l'expression régulière, c'est cette règle.
Exactement. On écrit une seule ligne de code qui dit à Googlebot d'ignorer instantanément toute adresse web qui contient un paramètre de tri. Ça sauve une énergie d'exploration colossale.
Redoutable d'efficacité. Donc on a une bibliothèque numérique ultra rapide et bien rangée. Ce qui m'amène au contenu lui-même. En lisant les notes, une question m'a frappé.
Laquelle ?
Si on rédige une page encyclopédique géniale sur la reproduction de la cigogne noire, l'instinct commercial voudrait qu'on mette un énorme bouton clignotant « Louer un kayak » en plein milieu de la page. Pourquoi ils ne le font pas?
Parce que ça provoque une dilution sémantique. L'algorithme de Google évalue toujours la pertinence entre la page de départ et le lien proposé.
Ah oui. Et un oiseau migrateur et un kayak monoplace, bah ça n'a aucun rapport direct.
Exactement. Mélanger les deux détruit totalement la clarté du sujet. L'architecture moderne exige des silos thématiques totalement hermétiques. La nature avec la nature, le commerce avec le commerce.
Mais sur 100 000 pages, c'est impossible de faire ce tri et de tisser des liens pertinents à la main. Comment ils font?
Les sources parlent d'analyse vectorielle et d'algorithme TF-IDF, encore des mots qui font peur. C'est en fait fascinant. Plutôt que de lier les pages manuellement, le site utilise une automatisation. L'algorithme TF-IDF analyse à quel point un mot est unique et crucial sur une page spécifique par rapport au reste du site.
Donc, s'il repère un terme très pointu comme Natura 2000, il comprend le contexte.
Voilà, il va alors générer automatiquement un lien vers d'autres pages qui parlent de conservation environnementale. Et tout ça sans aucune intervention humaine.
C'est bluffant. Mais reprenons un peu de recul. On a une architecture parfaite, des liens tissés par l'IA, seulement on parle d'activités aquatiques qui peuvent être dangereuses.
Oui, le risque est réel en rivière.
Exactement. Si quelqu'un cherche les débits d'eau et que les infos sont mauvaises, c'est un risque vital. Comment on prouve à l'algorithme que ce n'est pas juste un site bien codé, mais un site véritablement fiable ?
C'est là qu'on entre dans les critères stricts de Google qu'on appelle YML, Your Money or Your Life. Ça sanctionne les contenus qui peuvent impacter la sécurité.
D'accord, donc Google est ultra vigilant.
Tout à fait. Pour prouver son autorité, le site encode carrément l'identité de son spécialiste hydrologique certifié, Quentin Deligne. Il utilise le format JSON-LD.
C'est quoi ce format au juste ?
Ça agit comme une véritable carte d'identité numérique qui est insérée directement dans le code source. Google lit ça et valide instantanément l'expertise de l'auteur.
Et pour rassurer, ça va encore plus loin. Nos sources mentionnent l'intégration d'une cryptographie de niveau militaire, la norme NSA-8B. C'est de la sécurité quantique.
Ouais, ça paraît complètement disproportionné pour réserver un kayak.
C'est clair. Comment un cryptage ethnique caché dans les serveurs peut-il influencer l'autorité SEO du site ?
L'astuce est psychologique en fait et indirecte. Cette cryptographie n'est pas un bouton magique pour le référencement. Mais quand l'utilisateur arrive sur la page de réservation, son navigateur affiche des protocoles inviolables et un site ultra rapide.
Donc il se sent en totale confiance pour sortir sa carte bancaire.
Exactement. Résultat, presque personne ne quitte la page par méfiance. Et ce taux de rebond extrêmement bas envoie des signaux comportementaux fantastiques à Google. Il se dit que les gens font confiance au site et ça propulse son autorité.
C'est de l'orfèvrerie. Tout est pensé pour rassurer la machine et l'humain. D'ailleurs, l'optimisation demande de l'entretien, comme élaguer les branches mortes en forçant la désindexation des pages obsolètes avec le code 410GONE.
C'est vital, ouais. Supprimer l'inutile pour concentrer l'autorité sur les pages qui comptent vraiment. C'est la base d'un écosystème sain.
Qu'on rassemble toutes les pièces, ça laisse vraiment songeur.
Ah bah c'est sûr.
Si la survie numérique d'un simple centre de kayak au cœur des Ardennes exige une IA pour tisser ses liens et une sécurité digne du Pentagone pour rassurer les algorithmes, quelle est la véritable profondeur, enfin la complexité, totalement invisible des petits sites web qu'on consulte tous les jours en buvant notre café Wakely ?
C'est net, on ne verra plus jamais le web de la même manière.